Dialogue entre Congolais à la présentation de l'équipe La Moudi.
Bonsoir. Les membres du gouvernement central sont en séminaire depuis lundi à Kinshasa. Pendant ce temps à l'intérieur du pays, certaines provinces ont déjà leurs gouvernements provinciaux. C'est le cas de l'Équateur et du Nord Kivu. Dans d'autres provinces, les gouvernements provinciaux ne sont pas encore formés. Cas du Katanga, les deux Kasaï et les Sud Kivu pour ne citer que celle-là. Où en est-on avec la composition de gouvernements provinciaux? C'est le thème qui dialogue entre Congolais à bord ce soir. Deux grandes questions vont conduire les débats. Primo, quels sont les critères de sélection des ministres provinciaux? Secundo, quelles sont les tâches qui attendent les équipes provinciales? Ces questions sont certainement celles que vous vous posez. Vous êtes nombreux, très nombreux même à réagir. Diderot et Mara Matadi dans la province du Bas-Congo demandent si le nombre des ministres sera constant dans toutes les provinces ou est-ce qu'il dépendra de la dimension de ces provinces. Restons à Matadi avec cette question de David Nzuzi. Pourquoi le Nord Kivu et l'Équateur sont en avance concernant l'installation des gouvernements provinciaux par rapport aux autres provinces? Celles-ci ne seront-elles pas en retard pour leur développement par rapport au Nord Kivu et l'Équateur? Antoine Miaka Kananga au Kasaï occidental pense que le gouverneur doit tenir compte de la représentativité territoriale dans la composition des équipes gouvernementales provinciales pour mieux gouverner. Najoua Justin de Goma dans la province du Nord Kivu se demande si les autres gouverneurs attendent d'être corrompus avec des pots de vin avant de sortir leurs gouvernements provinciaux. Et enfin, Emma Kassaki se pose la question suivante. À quel critère le gouverneur recourt-il dans les choix des ministres provinciaux? Pour répondre à ces questions, nous avons comme invité ce soir deux gouverneurs qui sont au téléphone. Monsieur Alphonse Ngoï Katangi, gouverneur du Kasaï oriental. Monsieur José Makila Soumanda, gouverneur de l'Équateur. Et au studio, nous avons Monsieur François Elika, analyste politique. Bonsoir à nos invités.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Abordons tout de suite la première partie de notre émission avec la question « Quels sont les critères de sélection des ministres provinciaux ?» Avant de répondre à cette question avec nos invités, vous devez savoir que la constitution promulguée par les chefs de l'État le 18 février 2006 prône un développement à partir de la base, c'est-à-dire des entités décentralisées comme les provinces. Et pour être administrées au quotidien, chaque province doit avoir un gouvernement provincial. Mais au fait, qu'est-ce qu'un gouvernement provincial? De qui et comment est-il constitué? Élément de réponse avec vous, Claude Kianzalokangu.
Le gouvernement provincial, selon l'article 198 de la Constitution, est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Ces derniers, c'est-à-dire les ministres provinciaux, sont nommés après consultation par le gouverneur de province. Selon la Constitution, le gouvernement provincial ne peut comprendre plus de 10 ministres provinciaux. Par ailleurs, dans la composition de l'exécutif provincial, le gouverneur doit tenir compte de la représentativité provinciale. Par exemple, si une province comprend 5 districts, tous ces districts doivent être représentés au sein du gouvernement provincial. Pour être investi, le gouvernement provincial suit la même procédure que celle suivie par le gouvernement central. Le gouverneur doit présenter devant l'Assemblée provinciale son programme de gouvernement. Si ce programme est adopté par l'Assemblée provinciale à la majorité absolue, c'est-à-dire par la moitié de ses membres plus un, l'exécutif provincial peut être investi. Toutefois, tout comme pour le gouvernement central, les membres de l'exécutif provincial peuvent être relevés de leurs fonctions collectivement ou individuellement. Ceci au moyen du vote par les députés provinciaux d'une motion de censure pour ce qui est du gouvernement ou de défiance pour ce qui concerne un ministre.
Merci Claude Kienza. Le Nord Kivu fait partie des rares provinces qui ont déjà leur gouvernement provincial. Sa composition a été rendue publique lundi. Il comprend 9 ministres provinciaux nommés par un arrêté du gouverneur des provinces. La plupart des ministres provinciaux du Nord Kivu sont des inconnus du grand public. Une seule femme fait partie de cette équipe. Dégoma Gisèle Cage nous donne d'autres précisions dans ses reportages.
En tout, 9 ministres provinciaux viennent d'être nommés dans un arrêté signé le 2 avril par le gouverneur Julien Paluku. La plupart des ministres provinciaux ne sont pas connus du grand public. Néanmoins, on peut épingler quelques noms, comme celui de Mahali Kita, nommé ministre des Travaux publics, Infrastructures, Affaires foncières, Transports et Communications. Avant sa nomination, il était chef de division du cadastre circonscription de Goma. Il y a aussi M. Roumachana Jacques, nouveau ministre provincial de l'Agriculture, Développement rural Il a occupé les fonctions de directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Rutshuru. Dans cette équipe, on retrouve une seule femme, Madame Félicité Kaloumé, qui est nommée ministre provinciale de l'éducation, travail et prévoyance sociale. Aucun membre de la communauté pygmée n'a été nommé. Pourtant, dans une déclaration adressée au gouverneur de la province, les Bambouti avaient réclamé d'être représentés dans les institutions provinciales. Le directeur de cabinet du gouverneur n'a pas souhaité faire des commentaires autour de ces nominations. Gisèle Cache Goma, Radio Okapi.
Monsieur José Makila Soumanda, vous êtes gouverneur de la province de l'Équateur. Vous êtes pratiquement les tout premiers à avoir publié la composition de votre gouvernement provincial. Et votre collègue du Nord qui vous vient de vous emboîter les pas. Beaucoup d'appelés, peu de lieux, dit-on. Quels sont les critères qui ont prévalu dans les choix ou la sélection de vos ministres provinciaux?
Oui, merci pour la question. La question, en fait, la province de l'Équateur a tenu compte d'un critère, à savoir la représentativité provinciale, telle que prévue par l'article 198, alinéa 4 de la Constitution. L'expertise, la moralité, et plus les décisions des ministres par la base. C'est-à-dire pour laquelle la Constitution de la République, dans son article 5, dispose la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui le veut directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Mais qu'est-ce que nous, on fait à l'Équateur? On se l'a abattu sur les élus, à partir des élus locaux, c'est-à-dire les députés provinciaux, les sénateurs et les députés nationaux. Étant donné que nous avons 5 districts, nous avons demandé à ces élus de nous donner 2 ministres par province. Mm-hmm. Parce que ceci, bien entendu, c'est ainsi qu'on a fait le choix de nos ministres.
C'était facile, monsieur le gouverneur. Il n'y a pas eu des revendications à connotation ethnique ou tribale, parce qu'on sait à Kinshasa, par exemple, lorsqu'on forme le gouvernement central, plutôt, il y a quand même on assiste à certaines revendications des types provinciales. Non, nous nous sommes mal sous-représentés dans le gouvernement. Et chez vous, il n'y a pas eu ces cas-là?
Bien sûr, il y a eu des revendications, mais bon, quelques prévisions territoriales. Or, nous avons parlé sur le district. Nous avions dit qu'on prenait 2 candidats par district. Il y en a qui se sont sentis lésés parce que le territoire n'était pas représenté. Mais comme ça les dépend, le choix ne dépendait pas du gouverneur, ni du vice-gouverneur. Donc les élus se sont attendus entre eux et ils ont trouvé un consensus autour des candidats ministres. Bien entendu, ils se sont attendus et puis ils ont présenté la candidature.
Ok, monsieur Alphonse Ngoï Kassangi, vous êtes gouverneur du Cap Oriental. Chez vous, il n'a pas encore de gouvernement provincial. Que répondez-vous à Jacques Vialirendi de Boutembo de la province du Nord, qui estime que la composition du gouvernement provincial doit tenir compte des réalités ethniques de la province et du système des mérites?
Bien sûr, monsieur Jacques, c'est base sur la constitution de notre pays. Qui stipule que le gouvernement doit être représentatif. Moi, je suis de son avis. Nous, ici au Kassai Oriental, nous estimons que notre gouvernement sera le plus représentatif possible, qui représentera tous nos 3 districts, présenteront les membres de notre gouvernement, c'est-à-dire toutes les ethnies, les Louba, les Songhe, les Pitena seront représentées au sein de notre gouvernement.
Monsieur le gouverneur, j'ai bien peur qu'on puisse rester, on puisse faire prévaloir seulement les critères ethniques selon ce que la Constitution demande, sans tenir compte de la qualité des personnes qui sont nommées comme à l'Équateur ou bien qui seront nommées chez vous.
Bien sûr, nous ne nous basons pas simplement sur la représentativité. Mais je crois que il y a des gens compétents dans toutes les 3 districts. Nous allons nous baser aussi sur la compétence, l'intégrité morale, intellectuelle, la volonté de servir. Et aussi, vous devez être approuvé par la base qui est représentée au sein de l'Assemblée provinciale, par les députés, qui ont tous un quota, qui devront alors nous présenter des ministres que nous devons choisir.
Ok, monsieur Monsieur le gouverneur Makila, Adrien Ilobakweyi à Kananga, dans la province du Kasaï occidental, demande pourquoi dans les différents gouvernements provinciaux, où il y en a deux jusque-là, la parité homme-femme n'est pas respectée. Chez vous, vous avez combien de femmes dans votre gouvernement provincial?
Malheureusement, on a une seule femme dans notre gouvernement.
Comme dans le Nord Kivu.
Le problème, c'est que nous sommes réunis entre le maire de Vénu, en respectant scrupuleusement la Constitution.
Oui.
Donc, ce sont les élus qui nous ont présenté les ministres.
La Constitution.
On a un peu le problème.
Oui, la Constitution aussi, je crois, dans la Constitution, on parle de la parité homme-femme.
Évidemment, la Constitution fait de la parité homme-femme. Nous sommes dans les élections ici, avec une femme. Vous avez vu le nombre de femmes qui ont été élues dans l'Assemblée nationale.
Ok, monsieur le gouverneur, François Elika, je vous vois en train de réagir déjà. Vous êtes analyste politique à ce niveau de débat. Quelle peut être votre réaction?
Merci beaucoup, mais il faut dire que l'explication, il faut respecter l'explication donnée par monsieur le gouverneur, mais seulement il faut préciser que la Constitution fait obligation au pouvoir public de garantir la parité. Donc à ce niveau-là, les élus ont été consultés, encore que la consultation n'a pas une valeur péremptoire. C'est une consultation pour requérir les avis des autres. Mais l'autorité a le pouvoir et le devoir de pouvoir préciser qu'il est important par rapport à mon équipe que je puisse avoir la parité respectée. Donc si cela avait été une option levée, c'est sûr que les élus locaux devraient s'en tenir à cela. Bon, évidemment, il faut reconnaître que le problème est d'ordre général. Les femmes qui doivent être des ministres ici, ce ne sont pas des femmes qui ont été élues, ce sont des femmes qui sont nommées. Donc, les responsables de nos provinces ont, à ce niveau-là, la possibilité déjà de permettre à notre pays d'accéder à une sorte de civilisation citoyenne en termes de promotion de coexistence hommes et femmes déjà au niveau de l'espace provincial. C'est un effort et dans tous les cas c'est un idéal qui reste à faire. On ne peut pas être très rigoureux vis-à-vis de la province de l'Équateur. On estime que pour les autres provinces, il va falloir qu'on tienne compte de cette exigence qui, à mon sens, est quand même très déterminante en ce qui concerne la consolidation de la démocratie et la consolidation du sens des citoyennetés, parce que lorsqu'on est en face des femmes et des hommes qui reconnaissent que la parité est consacrée dans la Constitution, mais que cette parité ne trouve pas une application concrète, même là où il faut contourner le mécanisme de l'élection au profit de la désignation, alors là, ça risque quand même de froisser des susceptibilités. Ce qui est important, c'est que tout ce qui est dit dans notre Constitution doit être appliqué concrètement. Évidemment, il faut un travail d'organisation au niveau de femmes aussi. Il faut que la dynamique féminine arrive à bousculer les autorités pour que finalement ça soit aussi des femmes compétentes, des femmes de qualité intellectuelle élevée, de moralité éprouvée, qui doivent accompagner le gouverneur dans l'exercice de leurs fonctions.
Monsieur Alphonse Maurice Cassanger, vous n'avez pas encore nommé votre gouverneur, vous êtes sûrement en train de consulter. Vous avez suivi, monsieur François Elika, votre commentaire?
Oui, je l'ai suivi. Bien sûr, moi, gouverneur du Kasaï oriental, je mettrai en place une équipe gouvernementale qui est approuvée par le peuple à travers les députés. Bien sûr que j'ai la volonté de respecter la parité, mais si les députés qui représentent le peuple au sein de l'Assemblée provinciale mettent à ma disposition les femmes au sein de mon gouvernement, je nommerai ces femmes. Je n'hésiterai pas de le faire parce que c'est ma volonté. C'est ma volonté que j'ai pour que les femmes soient représentées au sein de mon gouvernement. Okay. Voilà. Alors, nous respecterons la volonté du peuple. Ce n'est que cette volonté-là que nous allons appliquer. Voilà ma réaction là-dessus.
D'accord. On reste avec vous, monsieur Alphonse Ndoye Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Il y a une question qui vient d'arriver, notre auditeur qui veut savoir qu'attendez-vous pour former votre gouvernement provincial. Il y a aussi la question que j'avais lue dans l'introduction des Najoua Justin de Goma de la province du Nord Kivu qui se demande si les autres gouverneurs attendent d'être corrompus avec des pots de vin avant de sortir leur gouvernement provincial.
Je ne suis pas un gouverneur qui attend d'être corrompu. J'ai des qualités morales à ne pas démontrer ici. Je sais qu'il ne s'agit pas de mettre en place une équipe gouvernementale qui n'aura pas des infrastructures viables pouvant l'abriter, mais il s'agit de mettre en place une équipe gouvernementale qui va fonctionner dans de meilleures conditions. Et voilà tout ce que nous attendons de mettre en place. Au moment où même la rétrocession mensuelle n'est pas envoyée par le gouvernement central, on nous demande alors de mettre en place le gouvernement provincial. Mais moi je me demande, où est-ce que nous allons mettre ces gouvernements? Ce gouvernement va fonctionner? Ce gouvernement va fonctionner dans la rue où on aura des bureaux? Il y a quand même un certain nombre d'exigences pour nommer un gouvernement provincial. Mmh. Voilà pourquoi nous attendons que tout cela, toutes ces conditions soient réunies, et nous mettrons en place notre gouvernement en bonne et due forme.
C'est vrai, et vous venez de le soulever, monsieur le gouverneur du Cap Oriental, il se pose des vrais problèmes, d'abord des problèmes d'infrastructure, où mettre ce gouvernement, où ils vont s'assembler, où ils vont se rassembler. Comment avez-vous fait, vous, monsieur José Matila, dans l'Équateur? Avez-vous des bâtiments? Est-ce que vous pouvez vous réunir tranquillement? Vous pouvez travailler? Est-ce que les conditions sont réunies?
Non, nous devons nous rappeler de ce qu'avait dit le ministre de l'État chargé de l'Intérieur et de centralisation. Au départ, le ministre de l'État, monsieur Koulou, avait refusé même confiance. La réunion de l'Église des affaires gouvernants. Parce que la loi dit que lui ne pourra être opérationnel que si nous passons devant l'Assemblée provinciale. Et c'est après discussion qu'on lui a accordé, parce que nous avons posé un problème. Nous devons faire des consultations. Allons-nous les faire dans la rue ou chez nous à la maison? Et le ministre de l'État intérieur a retrouvé bon, non, faites d'abord la réunion de l'Église comme ça, vous avez un bureau dans lequel vous allez faire les consultations. Voilà que cela nous a été accepté. Mais selon la Constitution, selon l'interprétation du ministre de l'État Koulou, nous ne pouvons pas poser un acte avant de passer devant l'Assemblée provinciale avec notre programme, avec notre gouvernement. Voici ce qui nous a amené de passer devant l'Assemblée provinciale avec le gouvernement et le programme. Comme ça, nous sommes dans la légalité. Voilà, le travail politique, c'est d'abord un bénévolat. Un homme politique, c'est d'abord un bénévolat. Et n'attendez pas que l'État vous donne, non, non. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour l'État pour que vous soyez reconnu comme homme politique? C'est ce que j'ai dit à la ministre. L'Équateur n'a pas d'infrastructure, l'Équateur n'a pas d'argent, l'Équateur a très peu de moyens de ressources. Et je leur ai dit, si vraiment il y a le patriotisme, si vous avez la volonté d'aider le pays, votre province, mais aujourd'hui, ne me pouvez pas surtout derrière et accepter qu'on puisse faire du bénévolat.
Et le message est passé.
Qu'on fait attendu pour pouvoir travailler.
Ok.
Bien sûr qu'il y a des locaux qui doivent être libérés. Mais je demande à tous les gens de division de libérer chacun un ou deux locaux selon la possibilité pour le ministre, pour qu'il se ressemble et puis à qui on va. Okay. On a donné des préavis à certaines personnes pour qu'il y ait une avenue sur laquelle on ne mettrait que le ministère. Voilà.
Monsieur José Matilès, la même recommandation, vous la faites à votre collègue du Cap Oriental, de ne pas attendre que toutes les conditions, ou bien peut-être les conditions prioritaires soient réunies avant de mettre sur place le gouvernement provincial. Doit-il...
Je n'ai pas de recommandation à faire à mon collègue. Tout simplement parce que je n'ai aucun droit à lui exprimer des ordres. Mais ça, c'est notre compréhension, c'est parce que nous avons posé la question,
ouais.
C'est pourquoi je vous dis que pourquoi et comment on va procéder.
Ok, d'accord, merci. Monsieur François Elika, il se pose réellement des problèmes. Vous savez que de toutes les provinces qu'on a, il y a très peu de provinces qui ont déjà procédé à la mise au pied des gouvernements provinciaux. Parce que il y a le gouverneur Alphonse Moïka Sangé qui a soulevé un problème de rétrocession, qui a soulevé un problème d'infrastructure, qui se pose des problèmes auxquels il faut trouver des réponses.
Qu'y pensez-vous? Faut-il y aller en mettant sur pied des gouvernements provinciaux, même si on n'a pas les conditions requises?
Il faut dire qu'il y a la nécessité de pouvoir formaliser très rapidement une équipe qui devra trouver des solutions à tout ce problème-là. Nos provinces font face à des défis très très importants, de telle sorte qu'aujourd'hui, les populations ont comme l'impression qu'il y a une sorte d'arrêt dans le fonctionnement des institutions au niveau local et au niveau provincial, parce que ces populations doivent sentir tout de suite un changement entre ce qui a été fait et ce qui doit être fait maintenant dans le cadre de la rupture qui a été engendrée par le processus électoral. Donc ceci est très important. Dans tous les cas, le problème que pose monsieur le gouverneur du Kassai Oriental est un problème très fondamental, et ce problème doit trouver son application au niveau déjà de la mise en place d'un arsenal juridique conformément à l'article 3 de la Constitution. Il va falloir très vite une loi organisant l'espace, organisant toutes ces entités territoriales décentralisées et leur interaction avec à la fois les provinces et aussi les pouvoirs centraux de la République en général. Donc ici, il y a un problème. Il faut suffisamment de l'imagination au niveau d'un sens managérial très important au niveau des autorités locales, au niveau des autorités provinciales, mais il faut aussi une interpellation réelle du gouvernement qui doit tout de suite affecter des moyens, mais aussi comprendre, j'espère que ça va être fait dans les budgets qui vont être présentés, et tout de suite comprendre qu'il est important, par exemple, de réfléchir en se disant tous les anciens locaux qui abritaient les assemblées régionales. À l'époque où nous étions dans la mouvance Saint-Père, tous ces locaux peuvent être affectés à une utilisation beaucoup plus rationnelle. Vous avez par exemple dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, ce qui a été les bâtiments qui abritaient la cour de sûreté par exemple, aujourd'hui c'est un bâtiment qui n'est pas utilisé. Est-ce que ces bâtiments ne peuvent pas être affectés à une utilisation plus rationnelle de sorte que les besoins de l'administration provinciale peuvent s'actualiser à ce niveau-là? C'est vrai que déjà à l'époque, quand nous avons tenté l'expérience du démembrement territorial avec l'ancienne province du Kivu, bon, la province de Maniema a été confrontée au problème d'infrastructure.
Nous allons y revenir avec la question sur les moyens. Et nous allons précisément parler de la province du Maniema dans cette émission. Vous voulez dire
tout à fait. Ce que je voudrais ici, c'est sur quoi je voudrais insister, c'est un sens accru de management, de créativité dans le chef de nos autorités, parce que ces autorités héritent d'une situation très très déficitaire, une situation très difficile. Il va falloir que quelque chose soit trouvé.
Ok, merci. Réaction du gouverneur Alphonse Moïse Kassangi?
Moi, je ne crois pas à un gouvernement de la rue. Je sais que le ministre d'État avait dit en son temps, quand on était au séminaire auquel mon collègue fait allusion, il avait dit qu'il y avait la nécessité de mettre un fonds à la disposition des gouverneurs. C'était aussi entre autres ses recommandations. Parce que je sais que j'ai une responsabilité envers le peuple kassaïen, de le servir, et puis je ne peux pas mettre de l'aventure dans le fonctionnement de l'institution provinciale. Je sais que je mettrai en place très prochainement un gouvernement provincial, mais je suis en train de me battre pour trouver des structures où pouvoir l'abriter, où il fonctionnera. Okay. Donc voilà pour moi ce que je pense être la vérité, ce que je vois moi dans l'esprit du ministre d'État. Donc il n'y a pas eu des obéissances de notre côté nous n'avons pas eu à penser de la même manière. Non, mon collègue a mis en place une équipe gouvernementale, il a pensé le faire, et moi très prochainement je mettrai en place mon équipe gouvernementale, mais j'avais certains préalables que je devais réaliser sur le terrain pour pouvoir publier mon gouvernement.
Ok. Au Katanga, on attend toujours la formation du gouvernement provincial. Dans l'entourage du gouverneur des provinces, on affirme que la publication de la liste des ministres est imminente, mais aucune date n'est avancée. Paul Kaboba a fait un tour au gouvernorat des provinces du Katanga, où défilent des personnalités politiques qui espèrent décrocher un poste ministériel. Suivez son reportage.
la salle d'attente du gouvernorat de province ne désemplit plus. Des figures connues et moins connues de la scène politique catandaise négocient des audiences auprès du gouverneur. Chacun espère décrocher un poste. Des petits groupes sont aussi visibles dans la cour et à l'extérieur. Sur les chaînes de télévision, ces personnalités multiplient les apparitions et les déclarations. Tel ce groupe de Kalimé et Nouzou qui menace de retirer ses députés de l'Assemblée provinciale si un de leurs ne devenait pas ministre. Le gouverneur Moïse Katoumi-Tiapoué avait répondu dès le 10 mars dans un meeting populaire que les quatre districts actuels du Katanga auront chacun au moins deux représentants dans son gouvernement. Il n'a cependant pas encore annoncé si son gouvernement sera composé de technocrates ou de politiciens. Seule indication, le gouverneur affirme que son gouvernement doit être capable de mener à bien sa politique anticorruption. Comme pour illustrer et renforcer cet engagement, il a révélé au cours d'un nouveau meeting samedi dernier les résultats obtenus depuis son entrée en fonction il y a 3 mois. 4 milliards de francs congolais à l'OFIDA pour ce mois de mars, en lieu et place de 2,3 milliards pour celle de l'année dernière. 1,2 million $ pour le péage au mois de mars, alors que ce secteur produisait 400 à 500 000 dollars américains par mois. De Lubumbashi, Paul Kaboba, pour Dialogue entre Congolais.
Merci Paul. Question au gouverneur Alphonse Ngoï Kassangi. Vous êtes sûrement en train de consulter les uns les autres pour mettre sur pied votre gouvernement provincial. Est-ce que vous êtes aussi quelque part sous pression ou y a-t-il des appels de pied comme l'avons suivi dans ce reportage de Paul Kaboba?
Je sais que il y a un certain nombre, il y a parfois une pression, on appelle la gauche à droite, mais je suis un homme, je suis élu par le, par mon peuple. Je ne dois faire que la volonté de mon peuple. Je dois choisir des personnalités qui vont me pouvoir m'épauler dans ma politique de changement, de la bonne gouvernance et de la maximisation des recettes pour servir le peuple et le peuple seul. Donc, je ne cède pas une quelconque pression, mais je sais que les demandes sont nombreuses, mais aussi, j'ai un choix. J'ai un choix à faire.
Gouverneur, monsieur le gouverneur José Makila, est-ce que vous aviez eu aussi l'impression d'être sous pression pendant le moment où vous devez mettre sur pied votre gouvernement provincial?
Oui, si vous me permettez, je voudrais un peu parler au nom de mon collègue de Kasaï-Oriental. Vous savez que l'original, c'est la seule ville où l'État n'avait pas construit pour les fonctionnaires. Là aussi, c'est un sérieux problème pour mon collègue. En tant que temps, nous avons des bâtiments, nous avons des maisons que l'État avait construit pour les fonctionnaires. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Ces maisons sont louées maintenant par des particuliers, des commerçants. On peut les mettre en dehors selon la législation congolaise. D'ici 2-3 mois, les ministres trouveront leur bureau, leur loyer, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas à Mbujimayi.
Donc c'est pour dire que c'est l'infrastructure Mbujimayi.
Ok.
Allons-y alors à ma question, monsieur le gouverneur, ça c'est bien dit. Allons-y à ma question. Est-ce que pendant que vous étiez en train de consulter à gauche, à droite pour mettre sur pied votre gouvernement provincial, avez-vous eu aussi quelques appels de pied ou des pressions?
Mais je précise, mon métier, vous faites la pression sur qui? Parce que l'option a été levée. Vous voulez devenir ministre, allez auprès de la base. Parce que la base vous le commande. Pour la ville. Donc si vous voulez subir des pressions, c'est oui. Mais moi, j'ai bien sûr des pressions. En tout cas, en ce qui me concerne, j'étais clair comme le dérange. Je lui ai adressé à tous les candidats. Vous voulez adresser votre candidature, c'est un mal. Nous avons 5 districts. Le district de la Trois-Parts, de la Mouyala, de Sud-Ubangi, de Nord-Ubangi et de l'Équateur. Adressez-vous à la base. Et qui est cette base? Parce que la notion base, elle est vague. Ce sont les élus. À partir des élus provinciaux, nationaux.
Okay.
Donc, adressez-vous à ces élus-là. Et puis, vous étudiez votre candidature.
Ok,
c'est vrai. Et c'est comme si j'avais le lien qui a mis sur ça, la parité. Si les élus m'avaient présenté autant de femmes pour le nommer, j'allais le faire.
Ok.
Donc, les élus qui m'ont présenté les femmes, donc la faute ne tombe pas au gouverneur.
On vous a bien compris. François Elika.
Oui, merci. Bon, il faut dire que à des moments pareils, le cérémonial est très fort, hein, les pressions sont inévitables. Évidemment, il faut dire que le terme pression est polysémique et riche de significations et que à un certain moment ça peut être le fait qu'on se retrouve en face de plusieurs choix et on ne sait pas qui il faut prendre. Finalement on s'est dit bon on se remet à l'appréciation des élus, c'est peut-être une façon aussi de gérer la pression, mais elle a existé. Pour une province comme le Kasaï oriental par exemple, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de pression, mais l'avantage c'est quoi? C'est que aussi bien pour M. Ngoïka Sagi que pour M. Makila, ce sont des personnalités qui connaissent bien leur province. Vous prenez par exemple le cas d'une personnalité comme Ngoïka Sagi qui a œuvré dans le secteur du diamant. Donc c'est quelqu'un qui est connu, qui a déjà une structure de relation bien établie, mais il faut reconnaître qu'il y a des sollicitations, l'un et l'autre ont eu à le reconnaître, mais ce qui est important ici, ce n'est pas les pressions. Elles vont exister inévitablement, mais c'est la manière dont on gère ces pressions.
Okay.
Donc on note déjà que pour la province de l'Équateur, les pressions étaient bien gérées. Le fait que le gouverneur a recouru au principe de la subsidiarité, c'est-à-dire en responsabilisant davantage ceux par le canal, ceux qui constituent en fait les structures d'intermédiation pour que les revendications et les sollicitations lui arrivent.
Mm-hmm.
Bon, nous estimons que pour le Kasaï oriental, le gouverneur trouvera une solution déjà, mais le fait qu'il affirme lui-même être quelqu'un qui doit après tout opérer un choix, c'est qu'il sait comment il va s'en tenir.
Merci. Quelles sont les tâches qui attendent les équipes provinciales? C'est la question qui nous ouvre la porte de la deuxième partie de cette émission. Avant de donner la parole à nos invités, un petit commentaire en guise de recommandation qui nous vient des Amani de Butembo dans la province du Nord Kivu. Il dit ceci: que les ministres provinciaux travaillent réellement pour tout le monde et non pour leur ventre. Monsieur le gouverneur José Makila, s'agissant de votre province, quelles sont les tâches prioritaires auxquelles votre gouvernement provincial devra-t-il s'atteler?
En tout cas, il y a trois étapes que mon gouvernement doit s'appeler. D'abord, sur le plan politique, il doit consolider l'unité de la province de l'Équateur. Il doit bannir les clivages ethniques sous toutes ses formes. Et il doit réprimer toute forme de tracasserie envers la population. Sur le plan économique, il doit réhabiliter les infrastructures de base, à savoir la voirie, les routes de dessert agricole, les routes à vocation nationale et internationale, les centres de santé, les hôpitaux, les écoles et les universités, et j'en passe. Il doit mobiliser les recettes du trésor public et des entités administratives décentralisées. Il doit aussi lutter contre les exploitations anarchiques de notre forêt, sur tout ça, qui constitue la première source génératrice de retraite de la province. Il doit également lutter contre la fraude fiscale sous toutes ses formes. Et enfin, il doit relancer l'agriculture, étant donné que la province de l'Équateur est sa vocation agricole.
Okay.
Et enfin, mieux qu'un âge que se termine l'exode rural, qui est une hémorragie pour nos provinces.
Okay.
Sur le plan social, enfin, il doit élever le niveau de vie de la population. Il doit assurer une bonne santé de la population par l'approvisionnement des formations médicales en produits pharmaceutiques. Il doit relier les différents districts, territoires et secteurs par voie aérienne, privée, lacustre et terrestre. Il doit aussi veiller à ce que le salaire des agents et fonctionnaires de l'État soient payés régulièrement et à temps.
Okay, donc,
et enfin, il doit encourager les actions des mouvements associatifs et de défense des droits de l'homme.
Okay.
Voilà un peu les objectifs que j'ai fait assigner à mon gouvernement.
C'est bien compris. Lorsqu'on aborde la question relative au travail ou aux tâches qui attendent les membres du gouvernement provincial, on pense tout de suite aux moyens dont on dispose pour y faire face. Sur ce point, les réalités diffèrent d'une province à une autre. Au Maniema, le nouveau gouvernement débute son mandat dans un contexte de crise financière très accentuée. Il hérite de 13 mois d'arriérés des salaires du personnel du gouvernement et des 16 000 $ américains de dettes extérieures qu'y avait-il dans la caisse comme recette au moment de sa prise de fonction jeudi dernier. Le nouveau gouverneur du Maniema répond à la question. Il nous parle des tâches propres à sa province
Didi Manara Linga est au micro de Sada Chabani.
J'ai vu d'hériter une situation catastrophique et moi je me disais, en prenant mes fonctions, je dirais que je dois relever ce défi. Il y a des très sérieux problèmes de gestion et même dans la caisse. Nous l'avons trouvé que un billet de 20 dollars et 10 000 francs congolais, vous voyez, avec une telle situation financière, par rapport à toutes les difficultés de la province, d'être envers les tiers, c'est plus ou moins 16 940 dollars, frais d'émission 3 millions, ça et 8 000 francs congolais, c'est toute une panoplie de dettes auxquelles nous devons faire face dans les jours à venir. Vous voyez, c'est une situation vraiment catastrophique.
Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoy Katangi, votre réaction?
Bien sûr, nous avons hérité d'une province en crise économique profonde, au moment où nous avons des arriérés de près de 7 mois du personnel qui travaille au cabinet du gouverneur. Et puis, en enquête, on a trouvé que 3 350 000 francs congolais. Nous avons des tâches très lourdes d'en faire de la bonne gouvernance notre leitmotiv, combattre la corruption, la maximisation des recettes et la réhabilitation des infrastructures, de toutes les infrastructures routières, sanitaires, hospitalières, sociales, réhabiliter tout. Assurer le bien-être de notre peuple. Voilà nos obligations et nos tâches. La tâche que j'assure à mon gouvernement. Donc le gouvernement devra très rapidement s'atteler à maximiser les recettes de l'État et faire de la bonne gouvernance afin que nous puissions assurer le bien-être à notre peuple, que le peuple retrouve son sourire, son bien-être. Voilà.
Ok. François Elika, d'où vient que dans la plupart des cas, les constats est amers, juste après les cérémonies de remise et reprise, souvent les caisses sont vides et beaucoup de biens de l'État sont introuvables. C'est la relève de l'indiscipline dans la gestion de la chose publique ou quoi, selon vous?
C'est la relève de la mentalité que nous avons eu à nous formaliser par rapport à l'État. Nous avons toujours considéré que ce qui appartient à l'État n'appartient à personne et qu'à la porte de sortie, nous nous préoccupons beaucoup plus d'emporter tout ce qu'il faut, tout ce qui se trouve dans la caisse ou tout ce qui se trouve dans les bureaux, dans l'espoir que nous ne pouvons jamais être poursuivis. C'est là toute la problématique du mode de gestion que nous avons eu à instituer chez nous. Mm-hmm. Nous espérons que maintenant les choses doivent pouvoir changer parce que nous avons, à travers le processus électoral, construit des mécanismes de contrôle, des mécanismes de poursuite. Il va falloir que de tels actes soient réprimés, encore que ces actes, il faut savoir les restituer dans le contexte. Il est aussi évident que nos provinces sont des provinces pauvres en termes de moyens. La plupart, lorsque vous prenez par exemple une province comme comme le Kasaï oriental, c'est une province, c'est vrai qu'il produit, qu'il y a le diamant, mais est-ce que toutes les années passées ont pu permettre à ce que cette province puisse bénéficier d'un système de rétrocession de sorte que une telle province arrive à construire ne serait-ce que l'infrastructure qui est au fait la condition du développement. Donc c'est un problème en termes de mode de gestion. Nous estimons que maintenant il y a une rupture. Tout le monde parle de la bonne gouvernance, mais cette bonne gouvernance devra d'abord être intériorisée comme une exigence morale et un état d'esprit plutôt qu'un simple discours qu'il faut proclamer.
Lorsqu'on se rend compte des défis qui attendent le gouvernement provincial, et pour relever ces défis, il faut qu'il y ait des moyens.
Ce sont des défis importants, beaucoup plus importants encore que les défis qui attendent le gouvernement central, parce qu'après tout, l'instance territoriale de la vie des populations, c'est au niveau de province. Monsieur Ngoy Katangi comme Monsieur Makila ont signé un contrat d'interaction avec les populations. Ce sont ces populations-là ne connaissent pas en termes de responsabilité politique M. Antoine Gizenga ou quelqu'un d'autre. Donc il va falloir que ces populations, lorsqu'elles ont besoin de manger, qu'elles frappent à la porte de M. Ngoy Katangi, qu'elles frappent à la porte de M. Makila. Donc ce sont des responsabilités énormes, mais ces responsabilités doivent être accompagnées ou sous-tendues par des ressources financières qui sont de grande envergure. Et pour cela, cela, nous avons besoin ici que les uns et les autres travaillent. Donc aujourd'hui, la responsabilité ne peut plus être la seule responsabilité dans le chef des autorités. Il va falloir que dans nos provinces, que tous les citoyens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes tous responsabilisés face aux défis du développement. Ce n'est plus la tâche du gouverneur, ce n'est plus uniquement la tâche du gouverneur, je vous l'ai dit, mais c'est notre responsabilité à nous tous. Nous devons nous mettre d'accord que la meilleure façon pour arriver au développement, c'est de travailler en interactivité, et que cette interactivité doit au fait être le fait de considérer que les réalités de la province sont des réalités qui nous interpellent, qui nous intéressent tous, et cela doit modifier nos structures mentales. Parce que la corruption, comme tout autre système de fraude, c'est d'abord au niveau pas uniquement des responsables provinciaux, mais au niveau de tous ceux qui travaillent et qui ont un mot à dire par rapport à la construction, à la maîtrise de leur destin.
Ok. Parole à Pamela Amunazo. Bonsoir Pamela.
Bonsoir Pélé.
La réaction des auditeurs.
Oui, beaucoup d'auditeurs nous ont écrit. Nous avons reçu plus de 400 SMS. Faute de temps, nous ne pourrons pas tous les lire. Et puis, il y a des questions qui nous ont été posées, qui sont relatives au rapport entre le gouvernement central et provincial. Elles auront toutes leurs réponses prochainement.
Bien sûr, au courant de la semaine, je crois qu'on va y revenir pour dire un peu de quoi le gouvernement central va s'occuper, également le gouvernement provincial. Donc on y reviendra. Mais
tout à fait.
Tu peux nous donner ce que tu as prévu pour nous.
Et pour ce soir, nous commençons par Moubiala, à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Il demande si c'est dans tous les pays démocratiques qu'on trouve des ministres provinciaux et quelle en est la cause. Joey Ilunga Mbushimai, dans la province du Kasaï-Oriental, pense que les gouverneurs doivent choisir des ministres qui peuvent les aider pour la réussite de ce premier mandat. Et Jean-Paul de Béni, dans la province du Sud, que vous voulez savoir quand est-ce que le reste de gouvernements provinciaux seront publiés. Et enfin, nous avons Freddy Umba à Kinshasa qui dit ceci. Pour les provinces restantes, nous leur demandons de privilégier la compétence dans le choix des ministres en lieu et place des corrupteurs. Voilà.
Ok. Donc, je rappelle ce que Pamela venait de dire. Merci à tous nos auditeurs, en tout cas, qui nous écrivent. Plus de 400 réactions, nous ne pouvons pas les lire toutes, et d'autres, beaucoup de questions qui ont été posées en rapport avec la différence gouvernement central, gouvernement provincial. On y reviendra. Monsieur le gouverneur José Makila, vous avez suivi les réactions des auditeurs, vous choisissez peut-être une question ou bien une remarque à laquelle vous répondez.
Très bien, merci de m'avoir accordé la parole. Je vais simplement dire ceci. Pourquoi José Makila a mis sous pied son gouvernement? Il s'est référé à l'article 175 de la Constitution, alinéa 2. Elle dit ceci, la Constitution.
Très rapidement.
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est tenue à la source 3. C'est-à-dire quoi? Nous, étant gouvernement provincial, nous devons à la source retenir les recettes allouées dans la nationale allouée aux provinces. Nous devons avoir une loi organique en la matière. Donc, il faudra retenir au gouvernement pour que chaque ministre de ses attributions puisse être pour que la province ait le moyen pour la reconstruction.
Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoï Kassangi, votre réaction?
Je sais que un auditeur a parlé que le gouverneur doit choisir des ministres qui devront les épauler dans les tâches qui leur sont confiées. Mm-hmm. Je suis d'accord avec cet auditeur. Nous devons faire un choix des hommes intègres qui pourront nous aider dans la lourde tâche qui nous attend. Aussi, je demande au gouvernement aussi central de faire la part des choses, parce que on ne doit pas vouloir une chose de son contraire. Aujourd'hui, où le gouvernement provincial, nos gouvernements n'ont pas de moyens, même les rétrocessions ne sont pas envoyées, on ne sait même pas retenir nos 40% à la source, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Nous avons énormément de problèmes auxquels nous demandons l'intervention directe du ministre des Finances.
Le message est
passé, monsieur le gouverneur. Vous présenter devant l'Assemblée provinciale qui accuse 4 mois d'impaiement.
Les messages écoutés, mais bon, demain, merci beaucoup. Monsieur François Elika, quelques secondes pour votre élection. C'est vraiment...
De façon générale, il faut dire qu'on ne retrouve pas les gouvernements provinciaux dans tous les pays. Cela dépend du mode de gouvernance qui est établi ou du système politique qui a été adopté. Nous avons été à l'époque du Zaïre, nous n'avions pas un gouvernement provincial, nous avions à l'époque une équipe, c'est quoi, le gouverneur était nommé par le président de la République, mais il n'y avait pas un gouvernement local ou provincial, donc cela est déterminé. Mais de façon générale, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système qui a ses conséquences et nous devons nous habituer.
Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à nos invités, Alphonse Ngoï Kassangi, gouverneur du Kasaï oriental, José Makila Soumanda, gouverneur de l'Équateur, et François Elika, analyste politique. À nous revoir demain, si Dieu le veut, même fréquence, même émission. Bonsoir à tous.